France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet, Olam Versini, chef de cuisine pendant 42 ans.
Premier épisode, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Eh oui, phrase horrible.
Bonjour, Olam Versini.
Horrible, ça m'amusait beaucoup parce que j'avais un âne en plus quand j'étais petite. Et je le trouvais très intelligent, donc ça me faisait rire. C'est mon père qui me disait ça. Mais lorsque j'étais plus grande, parce que mon père est venu m'élever lorsque j'avais 13 ans. Antérieurement, il a élevé d'autres sœurs, demi-sœurs et demi-frères.
On va y venir. Vous me laissez vous présenter un tout petit peu avant pour les auditeurs et les auditrices.
Oui.
Vous avez dit que vous avez été chef de cuisine de votre restaurant pendant 42 ans, ce qui est vrai. Mais vous auriez pu aussi dire, Olam Versini, que vous êtes une pionnière. Parce que vous avez ouvert votre premier restaurant à 23 ans, en 1973. Que vous avez été la première femme chef à obtenir 3 tocs et 18 sur 20 au Goemio. Et aussi la plus jeune chef étoilée au Guide Michelin. Le tout en étant complètement autodidacte. Vous avez aussi été la première femme à réaliser des recettes de cuisine en direct à la télévision et à la radio et à poser les jalons de ce qu'on a appelé et qu'on appelle toujours aujourd'hui la bistronomie. Votre premier restaurant parisien était le rendez-vous de toutes les stars venues du monde entier dans les années 80. Et votre dernier, Casa Olympe, a accueilli des clients pendant 20 ans, si bien que vous avez vu évoluer la cuisine française en étant aux premières loges, et que vous avez toujours beaucoup d'histoires à raconter. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, vous allez nous expliquer comment vous interprétiez cette phrase de votre père, mais je voudrais d'abord vous soumettre une autre phrase, qui n'est pas vraiment une phrase, qui est plutôt le sous-titre du livre que la journaliste Anne Etor vous a consacré en 2024 et qui revient sur votre parcours, votre vie. Elle l'a intitulé, ou plutôt c'est le sous-titre du livre, « Une cuisinière libre ». Est-ce que ça vous va déjà? Je suppose que oui, vous l'avez choisi avec
oui,
elle.
Oui, ça me convient très bien. Ça me va parfaitement. Et il est vrai que d'abord, j'ai eu une enfance de liberté. Je vivais à la campagne.
En Provence?
En Provence, dans le Var. J'y suis arrivée à l'âge de 3 ans et demi. Et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 15 ans. Cette enfance a été merveilleuse parce que ma mère avait une auberge pour gagner sa vie, mais elle était peintre, elle avait fait les beaux-arts et les arts décoratifs à Paris. Et c'était une vie d'artiste autour de moi. Les amis de ma mère, il y avait des poètes, il y avait des peintres, c'était des fêtes, tout était merveilleux, très gai, et j'avais une grande, grande liberté.
Elle gagnait sa vie comme artiste peintre?
Ben non, justement, c'est pour ça qu'elle a ouvert une auberge dans les années 40. 43, quelque chose avant la fin de la guerre.
L'auberge de la Source.
L'auberge de la Source. D'abord parce qu'elle peignait et elle avait un mal fou à vendre ses tableaux. Elle n'y arrivait pas, ça lui faisait beaucoup de mal. Et elle a commencé à les vendre dans les années 70 à des collectionneurs. Mais antérieurement, c'est l'auberge qui nous faisait vivre.
Elle peignait quoi, votre mère?
Alors, maman était née en 1912. Et elle peignait sur le sujet, c'est-à-dire elle partait avec sa boîte de peinture, partait dans les campagnes provençales, et elle peignait.
Le paysage, ce qu'elle voyait.
Le paysage, des portraits, des choses comme ça, oui.
De façon très réaliste, de façon très figurative?
Figurative, oui, absolument.
Elle vous emmenait?
Elle m'emmenait.
En deux chevaux?
Oui, en deux chevaux, avec le toit ouvert. Donc c'était merveilleux. Et mes premiers pas de cuisinière, je les ai faits à ce moment-là parce que elle partait et elle emmenait tout, elle apportait toujours avec elle des côtes d'agneau. Mon rôle, c'était de faire la cuisine. Je préparais le feu, des petites braises comme ça, avec qu'on faisait avec des sarments de vigne et un grill. Et je faisais les côtes d'agneau sur la braise qu'on mettait sur du pain, où j'avais fait une sauce de concentré de tomate avec des cornichons. Et ça, c'est mes deux premières recettes.
À 7 ans, hein, à peu près.
Ouais, 6 ans et demi, 7 ans, oui.
À toute petite. Et ça, vous l'aviez appris comment? Vous l'avez fait comme ça?
Comme ça, oui, sans doute que j'avais. Je ne peux pas vous dire, parce que les côtelettes, on en faisait beaucoup griller dans les cheminées, etc. Et ça, ça reste ma Madeleine de Proust.
Ah oui, c'est ça, votre Madeleine.
La côtelette d'agneau grillée au sarment de vigne, j'adore.
Parce qu'il y avait aussi une cuisinière à l'auberge, Marie.
Oui, il y avait Marie. Marie s'occupait plutôt de la maison, du service en salle et elle faisait la cuisine que pour la famille. Et elle était d'origine piémontaise. Elle était venue très tôt à Nice travailler à 14 ans dans une brasserie niçoise connue. Et elle avait atterri dans ce village de Méhoun. Et elle faisait la cuisine divinement bien pour nous. C'était merveilleux. Elle nous faisait des minestrones incroyables. Elle faisait de la polenta avec des ragoûts. Elle faisait des raviolis. Tout ce que à la cuisine italienne, des pâtes et tout était délicieux. Et ça m'a énormément marqué. Ainsi que ma grand-mère maternelle.
Ludovica,
qui était aussi d'origine piémontaise, qui était la maman de ma maman, et qui, elle aussi, me faisait de la cuisine italienne.
Vous êtes allée la rejoindre, on verra ça plus tard, quand vous êtes partie aux Beaux-Arts de Toulon, quand vous aviez 14-15 ans, et que vous avez vécu avec elle. Mais juste, Olympe Versini, j'ai du mal à prononcer le nom d'Olympe Versini en m'adressant à vous, parce que j'ai compris et appris en travaillant sur vous qu'en fait, Olympe, ce n'était pas votre premier prénom. C'est le prénom de votre maman,
oui.
Mais vous vous appelez Dominique. Alors, il a fallu que je fasse l'effort moi-même de dire non, c'est pas Dominique, c'est Olympe. Et on a très envie tout de suite de dire Olympe de Gouges, parce que
Olympe
n'était pas un prénom très fréquent. Est-ce que
c'est en effet le prénom de ma mère. Il y a des références en Provence, parce que mon grand-père, donc son papa était provençal. Il était né en Provence, il était provençal depuis des générations. Et il y avait en Provence, si vous lisez Les gens de Mogador, je sais pas si vous avez lu ce roman fleuve, il y a une Olympe. Je dis pas que c'était répandu, mais il y avait des Olympes, quelques-unes. Et maman donc s'appelait Olympe. Et quand on a ouvert le premier restaurant avec le père de mes enfants, mon ex-mari, moi j'avais aucune idée comment appeler cet endroit. Appeler chez Dominique, c'était pas possible parce qu'il y avait un restaurant où on faisait du caviar qui était à côté, rue Bréa, qui s'appelait chez Dominique. Et donc, Albert, mon ex-mari, a dit, on va l'appeler Olympe, comme ta mère. Et c'est resté.
Et c'est devenu
pour le restaurant.
Votre nom.
Et c'est devenu mon prénom parce que j'ai toujours détesté Dominique. Dominique, Domino, alors on vous chante toujours la chanson.
D'homme,
à peine d'homme, même pas. Après, c'est un prénom plus de garçon que de fille en Corse. C'est Doumé, vous voyez, c'est moche. Mon père était d'origine corse. C'est un prénom que je n'aimais pas, qui est aussi bien fille que garçon, ça ne me plaisait pas.
C'est quoi la chanson en question?
Attendez, c'est une chanson.
Dominique, Nique,
chantée par une religieuse.
S'en allait.
S'est suicidée. Voilà, exactement.
Vous êtes née en 1950, Olympe Versini.
Oui.
Un certain mois d'été, ensoleillé.
Oui.
Cette enfance, donc, dans les années 50-60, pour vous, surtout une fois que vous êtes descendue dans le Sud, c'est une enfance de liberté, avez-vous dit? C'est une
oui.
enfance au grand air.
C'est une enfance au grand air. On ne s'inquiétait de rien. C'est-à-dire que moi, petite, je partais dans la colline avec mon âne. Avec Pipo, mon âne, les copains, et on allait dans les granges s'amuser. On était libre. C'est incroyable, parce qu'en fait, dans les villages, tout le monde connaissait les enfants, et on n'avait pas peur des voitures, on n'avait pas peur des années 50. Elles n'étaient pas dangereuses comme elles pourraient se dire qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, c'était extraordinaire. Donc, je partais après le déjeuner, je rentrais à 8 heures le soir l'été.
Mais et l'école?
Ah oui, ça c'est l'été. J'allais à l'école dans
Mélanie.
Le village.
Ouais.
J'allais à l'école dans le village. Donc, j'ai fait ma scolarité de petite classe dans le village. Et,
quel élève étiez-vous?
Oh, j'étais une très, très, très mauvaise élève, mais j'avais une très bonne mémoire. Donc, il faut vous dire que j'étais, et que je suis toujours, même ça s'aggrave, ça s'est aggravé ces années passées, je suis extrêmement dyslexique. Alors j'étais dyslexique, gauchère, je ne voyais pas bien, j'aurais dû toujours porter des lunettes. Donc c'était difficile pour l'école.
À l'école, on n'acceptait pas beaucoup les gauchers,
déjà,
la dyslexie était pas reconnue.
Sur les doigts, il fallait mettre ses doigts comme ça, des coups de règle.
Comme ça, c'est à l'envers.
Voilà.
Les doigts
pour
vers
avoir
le d'un
coup de règle, parce que vous écriviez de la main gauche. Et en plus, j'écrivais de la main gauche, mais je partais du bas de la page en remontant. Je partais de droite à gauche. Vous voyez comment j'écrivais comme ça. Bon. Toujours est-il que ça a été très bien, parce que comme j'avais énormément de mémoire et que je m'appelais Versini, j'étais la dernière consultée. Je savais par cœur toutes les sons. Et je savais même lire, sans savoir lire. En plus, il y avait à l'époque, on appelait ça la méthode globale. Donc, on apprenait à lire avec des images. On ne vous apprenait pas béaba. On vous apprenait vélo. Un vélo, ça, moi, je pouvais dire bicyclette, puisque je voyais une bicyclette. Mais bon, comme je vous dis, j'avais beaucoup de mémoire et ça passait. Et c'est finalement quand je suis rentrée en sixième, à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans, qu'on s'est rendu compte que je ne savais pas lire, en fait. Je lisais, mais je lisais extrêmement mal. Sur ce, on m'a envoyée en Corse avec une institutrice corse qui m'a appris à lire. J'ai appris à lire en 2 mois de vacances et je suis rentrée en sixième. Et là, je me suis mis au fond de la classe parce qu'il faut dire que je ne comprenais strictement rien de ce qui se passait et de ce qu'on disait. Je ne comprenais pas ce que disaient les professeurs. Je ne comprenais pas les mathématiques. Je ne comprenais même pas l'histoire. Je ne comprenais rien.
Donc vous vous ennuyez ?
Je m'ennuyais énormément, donc j'allais au fond de la classe et je lisais. Donc là, j'ai lu tout Alexandre Dumas, j'ai lu tout Zévaco, j'ai lu etc. Donc je lisais.
Pendant les cours de maths ?
Pendant les cours de tout. D'anglais, je ne parle pas un mot d'anglais. Pendant les cours de tout.
Et les enseignants vous laissaient lire ?
Oui, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc j'étais l'âne de l'école. Je me demande, d'ailleurs c'est un souvenir que j'ai, si je ne me suis pas promenée dans le village avec un bonnet d'âne sur la tête. Vous savez, à l'école, à l'époque, c'est assez violent. Ça ne m'a pas dérangée parce que ça me faisait marrer. Tout ce qui était différent m'amusait beaucoup. Dans l'école du village, quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'adorais être punie parce que au fond de la classe, il y avait un grand placard où on mettait nos vêtements. Donc, et on m'enfermait dans le placard.
On vous enfermait dans le placard.
On m'enfermait dans le placard de l'école, de la classe. Et il y avait aussi toujours une deuxième ou une troisième élève qui était enfermée. Et là, on s'amusait dans le placard, à courir dans le placard. Et ça nous plaisait beaucoup.
Les souvenirs
moi,
de l'école.
Moi, m'amuser. C'est des souvenirs merveilleux.
Alors, pendant toutes ces années, Olympe Bersini, vous n'avez pas vu votre père, donc, puisque non. Vous étiez avec votre mère. Il se trouve que votre père vous rejoint à Méhoun, là où vous
voilà.
Étiez.
Voilà. Donc, en fait.
Quand vous êtes adolescente.
Oui, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Mon père et ma mère n'étaient pas mariés. Mon
donc,
père avait fait quelques bêtises.
Du faux monnayage pour.
Il avait fait des faux
monnayages. Clairement.
Et on n'en a jamais profité, je tiens à le dire. C'est dommage. J'en aurais bien profité, mais on n'en a jamais profité. Ni lui, ni nous. Donc, il a été condamné à ce qui est écrit sur les billets à 20 ans de prison. Et il en a fait 8. Et sur ce, je pense que pour sortir un petit peu plus tôt, ma mère l'a épousé, ce qui lui a permis de sortir 2 ans ou 3 ans plus tôt de prison. Et il est arrivé pour m'éduquer. Mon père était un intellectuel, d'une famille d'intellectuels. Ils avaient fait des études de droit. Ils n'avaient pas travaillé en tant qu'avocat. Mais il connaissait la loi parfaitement. Et quand il est sorti, il a voulu faire mon éducation. Il m'a sorti du lycée. Parce que j'avais redoublé ma sixième, que j'allais sans doute tripler. Et sur ce, il m'a dit, l'école sans doute ne sert à rien pour toi, je vais m'occuper de tes études. Et donc j'étais levée à 8h le matin, et de 8h à 11h, il me donnait des cours de français, de latin, et de littérature, et d'histoire. Voilà. Donc ce qui me convenait moyennement, mais mieux que d'aller à l'école.
Mais à l'école, vous aviez quand même des petits camarades de votre
alors,
classe,
à ce moment-là, je n'avais
âge,
plus de camarades de mon âge, parce que mon père était très dur et je ne pouvais... À la maison, il n'y avait ni télévision, ni musique, ni rien. C'est-à-dire, on lit, c'est tout.
On lit, il y avait des livres.
Voilà, donc j'ai énormément lu, de l'âge sans doute de 12 ans à l'âge de 17 ans, ça a été ma seule liberté. Finalement, parce que je ne pouvais pas sortir, évidemment, il veillait sur sa fille, enfin, c'était diabolique. Et quand on a un père qui arrive, qu'on ne connaît pas, qui arrive quand vous avez 13 ans, c'est un étranger qui arrive pour vous éduquer. Et donc, ça a été, j'ai eu 3 ans, 4 ans horribles. Et après, je suis partie, je suis allée vivre à Paris chez une de mes sœurs, ma sœur aînée.
Mais quand il était là, les premiers temps, vous vous rebelliez pas ?
Je me rebellais, mais enfin, je craignais mon père. Je craignais beaucoup mon père. Oui.
Vous aviez peur ?
Oui.
Et comment réagissait votre mère à cette éducation et cette déscolarisation ?
Ben, ma mère...
C'est un changement de vie
complet. Vous savez, ma mère était très artiste, très rêveuse, et je pense que ça l'a... Disons que ça la satisfaisait qu'il y ait quelqu'un qui me prenne en main, sans doute. C'était pour elle une forme de libération, parce que je ne devais pas être une petite fille très, très facile.
De quoi vous souvenez-vous de vous, de caractère ?
Ben, je faisais ce que je voulais.
Voilà, on ne fait pas boire de chien, un âne qui n'a pas soif, c'est vraiment voilà. Ça.
Et c'était donc la liberté, j'allais dormir chez mes amis, ma mère le savait au dernier moment. Bon, je vous dis, j'étais une petite fille, j'étais un peu une enfant sauvage.
Vous dites, Olympe Versini, que chez vous, il y avait de la lecture, point, il y avait des livres, point. Oui, mais il y avait quand même autre chose qu'il aimait, votre père, il aimait aussi la cuisine, c'était un amateur de cuisine.
Il adorait la cuisine. Il était fou de produits, fou de cuisine. Et d'ailleurs, à une époque, il avait des cuisinières chez lui, quand il vivait à Paris. Et après, il a vécu aussi 13 ans en Argentine. J'ai eu deux demi-sœurs à la suite de ce voyage. Et c'était sa passion. Même s'il y avait des cuisinières à la maison, c'est lui qui aimait faire la cuisine. Et lorsqu'il est venu s'installer à l'auberge de maman, il est devenu cuisinier. Et j'ai appris, grâce à lui, les produits. La qualité des produits. Parce que il détestait les voyages. On ne partait jamais en voyage. Et en revanche, on était allé, je me souviens d'un voyage en Espagne, où je rentrais d'Argentine, il était venu avec ma maman me chercher à Barcelone, parce que j'avais pris le bateau, aller-retour pour l'Argentine. Et il était allé avec plaisir en Espagne, parce qu'il y avait le meilleur jambon du monde. Donc, à 16 ans, j'ai connu le meilleur jambon du monde, qui était le jambon pata negra qui venait de tel endroit.
Et ça s'oublie pas.
Et c'était pour tout. Donc, je dois dire que toute la culture gastronomique des produits, c'est mon père. Ma mère aussi. Ma mère ne faisait pas très peu la cuisine. Elle ne faisait pas la cuisine. Mais en revanche, elle aimait les bons produits. Et il y avait toujours les premiers haricots verts, les premières fèves. Vous voyez, tout ce qui était dans le sud de la France. Hier, c'était une ville où on trouvait ce qu'on appelait les primeurs. Et ça, c'était merveilleux. Les petits artichauts et tout. Donc, on avait tout ça.
Et ce qui réunit la lecture, les livres, disons, et la cuisine, c'est que votre père, il vous racontait des histoires en vous lisant des livres, mais c'est des livres de recettes, c'est ça ?
Il lisait souvent des livres de recettes, voilà, bien sûr.
Et il vous a aussi offert un livre, quand vous aviez 15 ans, qui n'est pas n'importe quel livre de cuisine, puisque c'est l'un des ouvrages de référence de la gastronomie du début du XXe siècle. Vous vous souvenez de ce livre, Olympe Versini ?
Oui, Ali Bab, bien sûr.
Gastronomie pratique ?
Gastronomie pratique. Ali Bab, qui était en fait médecin, et qui a écrit un livre absolument incroyable sur la cuisine.
C'est quoi un livre incroyable sur la cuisine ?
C'est-à-dire, c'est noté au gramme près, mais alors il vous faut les meilleurs produits. C'est-à-dire que c'était toujours, s'il y avait des truffes, c'était un kilo de truffes. Vous voyez, on comptait pas. C'était un kilo de truffes, c'était pour faire une pâte, c'était un kilo de beurre, un kilo de farine, c'était comme ça. Mais les recettes que j'ai lues et que parfois j'ai fait une ou deux recettes, ça, elles étaient formidables. Et il y avait aussi l'art du régime dans ce livre. Il y a un bon chapitre sur le régime, la manière de manger, etc. Il s'appelait Babinski, je crois, de son nom de famille. Comme il était médecin, il y avait aussi tout ça tourné sur l'art de bien manger et l'art de faire des régimes.
Vous l'avez encore, ce livre ?
Oui, je l'ai toujours.
Et il trône dans la cuisine, dans le salon, dans la bibliothèque ?
Dans le carton, mais oui, il trônait. Je l'ai toujours gardé avec moi, en effet.
À 14 ans, Olympe Versini, vous partez suivre les cours de peinture aux Beaux-Arts à Toulon.
À 13 ans.
Même encore plus tôt. Comment ça se fait ?
Alors, ma maman était très amie avec le directeur des Beaux-Arts de Toulon. Et ne sachant pas que faire de moi, puisque je n'allais plus au lycée, au collège, il fallait un peu m'occuper. Donc, on m'a donné cette liberté que j'ai énormément appréciée. C'est d'aller aux Beaux-Arts, donc le directeur qui est à l'époque professeur, mais j'étais dans un cours qui était beaucoup trop important pour moi. J'étais dans un cours d'architecture et j'avais 13 ans, donc c'était complexe. Je m'y suis plus parce que j'ai rencontré des amis et ça c'était très sympathique, mais je n'y suis restée qu'une année. en même temps, c'est-à-dire à 13 ans, je suis rentrée au Conservatoire de Toulon d'art dramatique. Et là, je m'y suis beaucoup plu et j'y suis restée jusqu'à la fin du programme. C'est-à-dire, c'était à l'époque 3 ans, je crois. J'ai passé concours de fin d'année et je suis venue à Paris pour, en fait, faire du théâtre.
Parce que ce que vous aimiez, c'était le théâtre et le cinéma.
Ouais, j'adorais.
La peinture, non, pas spécialement. Les beaux-arts, c'était pas...
Ben, c'est-à-dire, sans doute, si j'avais fait dès le début la peinture, oui, ça m'aurait plu. Mais c'était de l'architecture. C'était des élèves qui avaient au moins 5-6 ans de plus que moi. En fait, c'était pour m'occuper.
Et mais vous pouviez pas...
Non, à l'époque, je pouvais pas changer. Et voilà, bon, c'était trouvé comme ça.
D'accord, donc vous partez faire le conservatoire d'art dramatique en même temps.
Oui.
Vous vous plaisez à faire beaucoup. Du théâtre et du cinéma. Et aussi parce que le cinéma, vous y alliez beaucoup avec votre grand-mère.
Alors,
de
ma grand-mère était une fan de cinéma.
À Toulon, quand vous
étiez à Toulon. Hein. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir le cinéma de l'époque, le cinéma donc des années 50, 60.
Alors, de quoi vous souvenez-vous?
Ah ben oui, parce qu'il y avait un cinéma à Toulon où c'était 80 centimes. Et ma grand-mère, on y restait parfois 3 séances, c'était permanent. Donc on rentrait par exemple à 2h de l'après-midi et on sortait à 6h, on avait vu 3 fois le film. Et moi j'adorais ça. Alors c'était tous les films de Rému, les films de Fernandel, de Funès. Moins parce que à l'époque, ils tournaient que dans des petits films. Les grandes deux stars de l'époque, c'était Rému, c'était Fernandel... voilà, c'était le cinéma de cette époque.
Et puis j'allais essentiellement le cinéma français.
Le cinéma français. Et j'allais aussi voir beaucoup de films des années 60 que j'ai adoré, des années 60-70 aussi, parce qu'ils passaient à Toulon et j'ai des souvenirs. J'adorais par exemple Terrain Simple, qui a été mon idole pendant longtemps. J'adorais Alan Betts et tout ça. Bon, voilà ça. Et j'ai adoré le cinéma. Et après, j'ai passé ma vie au cinéma pendant des années.
Et vous avez même obtenu un premier prix de comédie, non ?
Oui, un premier prix de comédie, en effet. Et je pensais donc faire du théâtre. Et je me suis inscrite à la Rue Blanche, qui était Rue Blanche à
l'époque. Et qui était très réputée, école
qui était très réputée,
de théâtre très réputée.
Je n'ai pas été acceptée. Je n'ai pas été acceptée parce que d'abord, j'étais d'une très grande timidité. Presque maladive, j'étais très 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 timide et je suivais, donc j'ai pas été prise à la Rue Blanche et j'ai suivi pendant un an un cours d'un professeur d'art dramatique qui s'appelait, je me souviens plus de son prénom, il s'appelait Furet et il avait une classe libre où je suis allée pendant un an et où je crois en un an j'ai dû présenter une pièce, une scène. Je ne pouvais pas, j'étais clouée sur ma chaise.
Qu'est-ce qui vous plaisait alors dans le jeu ?
Mais ça me plaisait, mais j'étais timide.
Vous n'y arrivez pas.
Ouais, et j'avais du mal. Mais peut-être c'était aussi d'avoir cette liberté. J'ai pu partir grâce à ça, être à Paris. Et Paris, pour moi, c'était ma ville, quoi.
À Paris, vous allez aussi 4 fois par jour au cinéma ?
Et j'allais 4 fois par jour au cinéma. Je commençais à 10h. Donc c'était les 3 Lucos, je ne sais plus si ça s'appelle, ou les 3 Luxembourg.
Ouais.
Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant.
Il s'appelle les 3 Luxembourg encore.
Les 3 Luxembourg. J'allais après à l'Actua Champeau. Il y avait 2-3 petits cinémas. Il y avait l'Actua Champeau. Il y avait le Champollion. Je crois qu'il fait longue. C'est un cinéma qui existe toujours.
Dans le quartier latin.
Et donc, je rentrais à 10h du matin, à la première séance des 3. Et je sortais à 11h du soir. Enfin, je faisais 4 films par jour.
Donc vous vous souciez plus à cette époque-là d'aller au cinéma et de découvrir des films et de parfaire votre culture que de bien manger, par exemple. La cuisine, ça vous a jamais traversé ?
J'aimais bien manger, mais j'étais pas.
Jamais vous imaginiez d'en faire un métier ?
Ah, surtout pas.
Ah, surtout pas même.
Surtout pas.
Pourquoi surtout pas ?
Lorsque j'étais chez maman l'auberge, je veux dire, mon père n'a jamais imaginé que je serais cuisinière. Moi, il voulait que je fasse des études de droit. Je me suis inscrit 1 an à la fac d'Assas. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire sans avoir son bac. Il suffisait de faire 1 an, je sais plus comment. La capacité en droit, ça s'appelait. Donc je m'y suis inscrite à l'âge de 18 ans. J'ai fait 18 jusqu'à 19 ans. Et mon fils est né, Abel est né, et j'ai arrêté.
En même temps, la cuisine a toujours été là. À la fois parce que il y avait l'auberge, hein, l'auberge ouais. De la source de votre mère, où d'ailleurs votre père s'est mis à cuisiner, aussi parce que avec cette grand-mère maternelle piémontaise qui a beaucoup compté, vous avez appris des recettes, par exemple la recette de la polenta. Donc vous vous souvenez quand même, il y a dans votre ADN la Corse, l'Italie, la Provence.
Il y a la cuisine dans mon ADN parce que depuis toute petite, je fais malgré tout la cuisine. Mais si vous voulez, je n'ai jamais voulu travailler dans un restaurant. Quand j'ai été à Paris, par exemple, j'aurais pu me dire, je me dirige vers la cuisine. Et ça, la cuisine a été un hasard total. Ça n'était pas ça du tout. J'aimais deux choses, la mode et le cinéma.
Oui, et la mode aussi.
Et la mode, voilà.
La mode, ça vient d'où?
Je sais pas. La mode, ça vient parce que, je veux dire, je pense, les magazines Elle de l'époque des années 60, on avait tous les magazines à la maison, Elle, Marie Claire, c'était on voyait les mannequins, on voyait Courrèges qui commençait, même Emmanuel Kahn s'était pas commencé encore. Enfin, vous voyez les Marie Kahn qui a fait les mini jupes et tout ça, donc ça m'a beaucoup plu. Et c'était une idée, je voulais faire de la mode. Voilà.
Des choses qui vous faisaient rêver, quoi. Le cinéma, la mode. Et vous finissez par rencontrer un étudiant en sociologie à Nanterre. En 68.
Je rencontre.
Ça a été le rêve. Il est réalisé, celui-là.
Au pied de Notre-Dame, en me promenant avec une de mes sœurs qui venait vivre à Paris, qui arrivait d'Argentine. Je lui fis visiter donc Paris. Isabelle avait 3 ans de moins que moi. Donc moi, j'avais 17 ans et elle en avait 3 de moins. Ça fait quoi? Ça fait 14. C'est ça?
C'est ça.
Oui. Et Albert drague. Et donc, je suis restée avec Albert.
Voilà, Albert.
Il nous drague devant Notre-Dame. On va boire un pot au petit bar. Un petit bar qui était plein d'étudiants et tout, qui était minuscule. C'était un QG d'étudiants en sociologie et autres, qui était à Nanterre. Il se retrouvait là, je ne sais pas pourquoi. Et nous ne nous sommes plus quittés.
Et c'est avec Albert Namias que vous ouvrez donc ce premier restaurant rue du Montparnasse, dans le 14e arrondissement. Et ça sera l'objet de l'épisode suivant. Merci beaucoup, Olam Versini.
Merci à vous, Caroline.
Et à demain.
À demain, au revoir.
C'était À Voix Nue avec Olam Versini. Réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Benjamin Perru, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.